Oui, qu'est-ce que ça comme symbole derrière cette histoire? C'est-à-dire, Sarah, très généreusement, dit, moi, je ne peux pas te donner un enfant, essaye avec la matrice égyptienne. Et alors, Ishmaël est né. Ishmaël est né alors que Dieu prophétisait à Abraham qu'il aurait un fils de Sarah. Seulement, comme c'est une grande règle de la tradition biblique, les décisions de Dieu sont irréversibles. Ça veut dire, si il y a eu une décision de Dieu qu'un fils naisse à Abraham par Agar, on ne peut pas l'annuler. Alors Israël sera obligé de tenir compte de l'existence d'Ishmaël. Alors je prends le récit du Zohar à ce moment-là. Alors, ça c'est donc, ce sont des rabbins et qui sont au temps des Romains et de l'occupation romaine sur la Judée. Alors c'est Rabbi Yossé et Rabbi Chiya marchaient en chemin. Rabbi Yossé a dit à Rabbi Chiya, pourquoi es-tu silencieux? N'est-ce pas que nous avons appris que pour éviter les dangers de la route, il faut étudier la Torah en chemin? Alors Rabbi Chiya a gémi et a pleuré. Il a commencé son discours en disant, en citant le verset, « Et Sarah était stérile, elle n'avait pas d'enfant. » Et il ajoute, « Malheur à ce moment, malheur à ce temps où Agar a enfanté Ishmaël. » Alors Rabbi Yossé lui a répondu, « Mais pourtant, voilà que Sarah, par la suite, a enfanté, après qu'est né Ishmaël, et qu'elle a eu un fils de la postérité sainte. Pourquoi dis-tu malheur ?» Il veut dire, bon, entre-temps il y a Ishmaël, mais il y a quand même Isaac qui est né, alors pourquoi tu te plains? Alors Rabbi Chiya lui répond, c'est que moi je vois une chose et toi tu vois une autre chose. Et ainsi j'ai entendu de la bouche de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était leur maître, et c'est pourquoi j'ai pleuré. Parce qu'il est écrit, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, malheur à ce moment, car parce que Sarah a été empêchée d'enfanter, il est écrit, et Sarah dit à Abraham, prends ma servante, et peut-être j'enfanterai à travers elle. Et c'est ce moment qui a souri à Agar pour lui permettre de déposséder sa maîtresse Sarah, et un enfant est né à Abraham de Agar. Or, Abraham, par la suite, a dit, puisses-tu faire, en s'adressant à Dieu dans sa prière, lorsque Isaac est né, Abraham a demandé, où Ishmaël est écrit à l'Éphanéra, c'est-à-dire, puisses-tu faire que Ishmaël vive devant toi? C'est-à-dire, bien que la promesse concernait le fils de Sarah, Abraham a quand même prié pour son fils Ishmaël. Et bien que, c'est ce que je t'ai dit, bien que Dieu lui annonçait pour Isaac, Abraham s'est attaché à Ishmaël jusqu'à ce que Dieu lui ait dit, où Ishmaël se martira, et en ce qui concerne Ishmaël, je t'ai écouté. Or, en hébreu, le mot Ishmaël, ça veut dire Dieu écoutera. Ça veut dire que puisque cet enfant est né à Abraham et que c'est irréversible, il a quand même droit à ses bénédictions. Seulement, le malheur que désigne ses rabbins, c'est que Ishmaël deviendra ennemi d'Isaac. Alors, et ensuite, il a été circoncis et il est entré dans l'alliance de sainteté avant même que Isaac ne naisse. Alors voilà, c'est là que commence un texte assez extraordinaire. Et viens voir, pendant 400 ans, le prince céleste qui est tutélaire des fils d'Ishmaël rit devant Dieu et lui demande, « Celui qui est circoncis, a-t-il une part en ton nom ?» Dieu lui répond, « Oui. » Alors le prince céleste dit, « Mais voilà que Ishmaël est circoncis. Pourquoi n'a-t-il pas une part en toi comme Isaac ?» Dieu lui a répondu, « Parce que celui-là est circoncis comme il faut, selon la règle, et celui-là, non. » Effectivement, dans l'islam, il y a des règles qui sont analogues aux règles de la loi de Moïse, mais approximatives. C'est-à-dire, ce décalage d'approximation disqualifie l'un par rapport à l'autre, dit le texte. Et pas seulement cela, mais que ceux-là sont circoncis, s'attachent à moi, comme il le faut, à 8 jours de la circoncision, alors que les autres sont éloignés de moi beaucoup plus longtemps. Et là, c'est une chose importante qui concerne le Cameroun, parce que j'ai appris qu'il y a des tribus au Cameroun qui avaient la circoncision à 8 jours.
Ah bon, à 8
donc,
jours?
À 8 jours.
Ah, je ne savais pas.
Il faudra que je vous retrouve la référence. Et que cela m'a beaucoup frappé, parce que dans tout l'islam, ça n'existe pas, la circoncision à 8 jours. Or, s'il y a des Africains qui avaient la circoncision du jour, ça veut dire qu'ils ont un lien avec Israël, depuis l'Antiquité, du temps de Moïse. Alors là, il y a un thème de Kabbale important. Pourquoi la circoncision devrait être à 8 jours?
Ah oui, je vois.
Je vais vous l'expliquer très rapidement, parce que le 8e jour de la naissance, la configuration des constellations est la plus analogue à celle du moment de la naissance. Ça revient 8 jours après.
8 jours après.
Or, la circoncision fait un choc qui fait une projection de l'énergie sexuelle sur l'énergie spirituelle et qui déconnecte des influences du moment de la naissance, de l'horoscope. Et c'est pourquoi la circoncision à 8 jours a été donnée à Abraham lorsque Dieu lui a dit « Sors de ton thème astral ». Ça veut dire que la religion biblique, c'est pour nous permettre de surmonter les influences qui conditionnent astrologiquement. C'est clair?
C'est ça.
Donc la circoncision à 8 jours est spéciale.
Ça permet de se libérer des conditions
astrales. Ça permet une libération de l'énergie spirituelle. Alors c'est pourquoi les Hébreux ont comme signe de l'alliance d'Abraham la circoncision à 8 jours.
Oui.
Alors que Ishmael a bien la circoncision, mais pas à 8 jours.
Ça peut se faire.
Ça va jusqu'à 21 ans, ça va. Ça dépend des sectes. Et alors, d'ailleurs, Ishmael lui-même a été circoncis à 13 ans.
Ah.
Dans le récit biblique. Et en général, les musulmans ont la circoncision à 13 ans, mais ça dépend des tribus. Et alors, ça veut dire qu'il n'est pas circoncis comme il faut, comme dit le texte, mais il est circoncis quand même. Alors, parce qu'il est circoncis quand même, il va avoir un mérite sur la terre d'Israël. Vous voyez, on est en plein dans notre problème.
C'est ça.
Je continue. Alors donc, le prince céleste qui est tutélaire des enfants d'Ismaël dit à Dieu, mais malgré cela, puisqu'il a été circoncis, est-ce qu'il n'a pas droit à un salaire? Alors, je continue. Et c'est là que le rabbin, en fait, on dit, malheur à ce temps où Ismaël est né au monde et il a été circoncis. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a éloigné les enfants d'Ismaël de l'attachement d'en haut. Ça veut dire, comment vous expliquez ça, non? Lorsque le nom de Dieu se révèle sur terre, il y a différents niveaux de sainteté. Alors, il y a des hommes qui sont attachés à la sainteté supérieure et d'autres à la sainteté inférieure. Par exemple, l'enjeu entre Ésaü et Jacob, c'est la sainteté supérieure. C'est pourquoi les chrétiens sont attachés au nom Israël, qui est la sainteté supérieure, et pas les musulmans. Alors, quel sera le rôle des musulmans? Vous allez voir, c'est très intéressant d'ailleurs. Il leur a donné une part en bas, sur la Terre Sainte, à cause de leur circoncision. Ça veut dire, puisqu'ils ont la circoncision, ils ont un certain mérite, mais en bas, sur Terre, pas dans le ciel. Je ne sais pas si vous voyez là.
Oui.
Et alors voilà le texte qui nous concerne. Dans l'avenir, les enfants d'Ismaël domineront la Terre Sainte un très long temps, au temps où elle est vide d'Israël. Ça veut dire, lorsque les Hébreux ne sont pas sur la terre, c'est les fils d'Ismaël qui s'en emparent. Alors vous voyez les conséquences. D'abord, dans l'histoire, effectivement, l'islam a dominé 800 ans sur la terre d'Israël. 400 ans avec les Arabes et 400 ans avec les Turcs. Et leur domination de l'islam, je dis bien, s'est terminée précisément pendant la guerre de 14-18,
en 1910, avec la déclaration
en
de Dorbalfour.
1917.
1917.
Je veux dire quand? Quand le général Allenby a pris Jérusalem sur les Turcs, en 1917. Et ce général avait un nom anglais, Allenby. En arabe, ça veut dire prophète de Dieu. Allah Nabi. Allenby, comment il s'appelle comme ça?
Un
anglais qui s'appelle Allenby. Et ce mot en arabe, ça signifie prophète de Dieu.
C'est
curieux. C'est très curieux.
Il n'y a pas de hasard.
Oui. Et alors, c'est ce que dit le texte. Voilà. Et de même que leur circoncision est vide de perfection, c'est-à-dire elle est imparfaite, de même quand la Terre Sainte est vide d'Israël, alors eux s'y installent. Et c'est pourquoi le conflit actuel, c'est que quand les Juifs veulent revenir en Eretz Israël, qui s'y oppose?
C'est les enfants. Ce sont les fils.
Et le texte ajoute, jusqu'à ce que s'achève le mérite des enfants d'Ismaël. Ça veut dire, au bout de 800 ans, et c'est une date prévue par le prophète Daniel. Le prophète Daniel dira que la bête qu'a vue dans son rêve, Daniel, il a vu quatre bêtes qui correspondent aux quatre empires, cessera de dominer la terre d'Israël au bout de 800 ans. Il donne la date exacte. Alors je continue. Et les enfants d'Ismaël sont destinés à déclencher de grandes guerres dans le monde et se rassembleront contre eux les fils de Édom.
Alors, oui, que les Arabes, le monde occidental
se restent contre les fils d'Ismaël. Là, nous sommes en plein là-dedans. Et ils feront contre des guerres, une sur la mer et une sur la terre, et une qui a pour enjeu Jérusalem. Et c'est exactement ce que nous vivons. Et les uns domineront sur les autres, et la terre sainte ne leur sera pas soumise. En ce temps-là, se lèvera un peuple du fond de la terre contre la cité scélérate, celle de Babel, et fera contre elle une guerre qui durera 3 mois. Alors vous voyez que, d'après ce texte, la guerre durera 3 mois. Au début, on croyait qu'en quelques jours, c'était fini, mais maintenant, on sait que ça va durer longtemps. Alors, comment ça va se passer, ça, personne ne sait. Mais ça veut dire une période de 3 mois. Une période de 3 mois, c'est un symbole dans les prophéties bibliques, le temps où on est sûr qu'un enfant va naître, c'est au bout de 3 mois de la grossesse. Et se rassembleront là-bas les peuples, et ils tomberont entre leurs mains, jusqu'à ce que tous les fils d'Édom se rassembleront de toutes les extrémités de la terre. Alors Dieu se lèvera contre eux, et c'est là ce qui est écrit dans le prophète, car c'est un sacrifice pour Dieu à Botsra. Botsra, c'est Bassora, la ville qui est là-bas dans la région.
C'est une ville irakienne.
Oui, et qui est indiquée que...
C'est une précision.
Oui, voilà. Et voilà le texte que je voulais vous lire. Alors, de toutes les façons, moi je croyais que vous aviez un Zohar en français, mais je vous le fais renvoyer.
Oui. Mais le Zohar a été écrit il y a...
Ah oui, il a été écrit au temps des Tanaïm, c'est-à-dire il y a 1600 ans. Il a été formulé il y a 1300 ans par Léon de Modène en Italie, mais nous avons des traductions françaises, même en français.
Mais, monsieur le professeur, d'après ce texte du Zohar, il y aurait donc quand le camp des Occidentaux, des fils d'Ismaël.
Oui.
Mais il se trouve du côté occidental,
Mais regardez ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il s'agit d'un affrontement entre la descendance d'Ésaü, enfin ce que c'est devenu dans l'histoire, Édom, et la descendance d'Ismaël, c'est ce qui est devenu dans l'histoire. Alors finalement, ça se cristallise entre la chrétienté en dominante et l'islam en dominant. Ce qui est d'autant plus paradoxal que l'Irak était un régime athée, laïque.
Il y a des chrétiens même dans le gouvernement de Saddam.
Et ce qui fait que le grand danger, c'est l'Iran quand même. Ça, je ne sais pas comment ça va tourner. Mais le fanatisme islamique impérialiste, c'était quand même Khomeini. C'est là que ça s'est déclenché, après la fin des dynasties perses. Après le Shah, l'islam s'est emparé de l'Iran, en tant qu'impérial. Or, la descendance historique d'Ismaël, c'est l'Arabie saoudite. Ça veut dire que pendant qu'il y a cet affrontement, il y a finalement réconciliation entre Ismaël et Ésaü, avec pour enjeu Israël. Voilà, c'est pas suffisamment clair ce que je veux dire.
Non, comment il y a réconciliation?
Puisque l'Arabie saoudite est l'alliée de l'Amérique.
De l'Amérique.
Oui. Et que l'Amérique est alliée de l'Arabie saoudite. Et ce qu'il y a d'assez étonnant, c'est que dans le monde occidental, il y a différents courants. Et du point de vue de la religion chrétienne, il y a 3 grands courants. Le grand courant, la religion orthodoxe, elle est plutôt slave. La religion protestante est plutôt anglo-saxonne. Et la religion catholique est plutôt latine. Mais on voit très bien que les Latins et les Anglo-Saxons se sont alliés et que les orthodoxes qui font partie de la Russie ne sont pas dans la coalition.
Non.
Et au contraire, la Russie essaye d'être, disons, neutre. Vous remarquez.
C'est ça.
Non, ce que je veux ajouter, c'est qu'il y a 2 étapes dans l'histoire d'Ismaël. Il y a lorsqu'Ismaël est révolté contre son père et lorsqu'Ismaël est repenti vis-à-vis de son père. Alors, s'il y a une alliance entre l'Arabie saoudite et l'Occident, ça veut dire que l'Ismaël historique, qui est l'Arabie saoudite, quoi qu'il y a une tribu des Ismaélites qui sont des Pakistanais, eux. Si vous avez entendu parler des Ismaélites en Inde.
C'est ça.
Mais l'Arabie saoudite, c'est l'héritage historique. Alors ça veut dire qu'il y a une réconciliation dans la famille d'Abraham qui est en train de se préparer. Mais ça m'amène, on reviendra sur toutes ces choses-là, s'il y a des questions, ça m'amène à vous dire une impression que j'ai. Parce que je ne sais pas si vous savez que, indépendamment des instituts que je dirige en Israël, j'avais fondé il y a 30 ans déjà à Paris un institut d'études universitaires juives. Et nous avons étudié ces questions. Actuellement, il y a dans le monde chrétien une remise au point de positionnement vis-à-vis d'Israël, au bout de 2000 ans. Et là, je crois que ça va sur dans le bon sens, bien que ça prendra beaucoup de temps, parce qu'au Vatican, on est toujours
ils
en retard.
Très conservateur.
Oui, très conservateur. Mais malgré tout, vous lirez la revue que
j'ai vue. La revue verte, là. Oui, j'avais commencé à la lire hier soir.
Oui.
On voit qu'il y a des aspects nouveaux.
Complètement. Absolument.
Des positions nouvelles.
Absolument. Or, nous avons essayé de promouvoir une rencontre entre théologiens juifs, chrétiens et musulmans. Mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Avec les chrétiens, ça marche plus ou moins. Avec les musulmans, ça ne marche pas du tout. Alors, j'ai une idée que je vous soumets. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être qu'en Afrique, l'Église africaine et l'islam africain est quand même différent de l'Occident. Peut-être qu'en Afrique, ce serait plus facile de réunir des théologiens chrétiens, musulmans et juifs. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, je crois que c'est une bonne idée quand cette affaire sera terminée.
Oui, absolument.
Évidemment, maintenant.
Oui, maintenant
mais le principe, je crois que ce serait une bonne chose. Et je pense qu'au Cameroun.
Au Cameroun, vous avez les trois.
On a les trois.
Oui, absolument. Moi, je suis prêt à venir. Alors, cette fois, je vais arranger pour venir pour un séminaire. Bon, on ferait ça en privé. C'est-à-dire quelques chrétiens, quelques musulmans. Et quelques juifs qui puissent parler la même langue, le français si c'est possible.
Et c'est ça.
Oui, et qu'on commence à étudier ça. Parce que il y a des bouleversements qui se feront dans la pensée chrétienne, c'est évident. Ça prendra du temps. Mais l'anti-judaïsme des musulmans a été hérité des évangiles.
Oui, des évangiles
C'est clair. Et alors, à ce moment-là, si, ça sera une grande leçon, si dans un pays comme le Cameroun, on peut étudier ensemble ces questions-là. C'est pourquoi je vous disais déjà hier soir que vous avez une destinée providentielle. Parce que j'ai compris cela. C'est très rare un pays où il y a et les chrétiens et les musulmans ensemble. C'est très rare.
Et qui vivent en bonne intelligence.
En bonne intelligence. Et puis surtout le fait que depuis que je connais le Cameroun, je me rends compte que les Africains ont une perception de la foi qui est différente des Occidentaux. Et par conséquent, avec un théologien anglo-saxon ou latin, on peut arriver qu'à des impasses. Parce que ce qui sont des choses qui sont compréhensibles par la foi, eux, ils le pensent par la philosophie. Vous voyez la différence?
Oui, parce que ici, quelquefois dans les mosquées, les imams prient pour le président dont on sait qu'il n'est pas.
Dont on sait qu'il n'est pas.
Musulman.
Et absolument. Alors je crois que ça pourrait se préparer, cela.
Je crois que c'est possible.
Les
théologiens, nous en avons. Il y a les jésuites ici, il y a des...
Oui, qu'ils soient catholiques.
Mais il faut que ce soit des gens...
Des gens de valeur.
De valeur, parce que...
Et de valeur morale, parce que ça aussi c'est indispensable. Alors si vous pouvez déjà, par vous-même, réfléchir, quelles sont les personnes du côté musulman, je crois que ce serait très important. Vous savez, parce que cette guerre ne va pas durer longtemps. Et il est évident que l'Occident la gagnera. Nous avons la suite de ces textes qui montrent que l'Occident ensuite reconnaîtra Israël comme étant véritablement la descendance des Hébreux. Ah oui, c'est clair, c'est juste après. C'est-à-dire, on entre dans le temps messianique. D'ailleurs, on voit le revirement du monde entier par rapport à Israël en quelques jours. Vous avez senti cela.
C'est ça.
Dès qu'Israël a été attaqué...
C'est l'indignation générale.
Tout a changé.
Alors que Saddam croyait...
Voilà, le contraire. Il croyait le contraire. Alors à ce moment-là, je crois que si ça peut effectivement se déclencher par un pays africain, ce sera plus facile qu'en Occident.
Là, le problème avec les catholiques, ils obéissent simplement à Rome. Mais enfin, on va voir, les protestants sont plus indépendants.
Oui, mais enfin, c'est à vous de décider. Vous les connaissez mieux que personne.
Oui, oui. Les musulmans camerounais, il y en a Il y en a qui se disent, mais je crois qu'ils n'ont pas atteint le niveau d'abstraction. Mais on peut trouver des théologiens. Je veux perdre, mais je suis d'accord avec le
président. Ah, bah, très bien. Alors, c'est fait. Si vous êtes d'accord, c'est décidé.
Ah, oui, décidé. Je suis d'accord.
Et je suis persuadé que c'est providentiel. Et je crois que ce sera une très bonne chose. Parce qu'il y a deux problèmes que nous devons étudier ensemble, tous les trois. D'abord, qui est Abraham ? Et ça, nous avons énormément de récits dans la Bible qu'on peut étudier ensemble. D'autre part, qui est Moïse ? Parce que pour les trois religions, Moïse est important. Et puis troisièmement, qui est Jésus ? Parce que pour les trois religions, Jésus est important. C'est paradoxal ce que vous dites là. Pour les chrétiens, parce que c'est Jésus.
Oui.
Les musulmans ont une conception différente des chrétiens, mais une conception. Je ne sais pas si vous savez cela.
Voilà. Qu'est-ce que c'était un prophète ?
Plus qu'un prophète, Jésus. Il appelle Ruhullah, ça veut dire l'Esprit de Dieu. Mais il n'admet pas qu'il soit
assimilé
à Dieu. Et nous n'admettons pas qu'il soit assimilé au Messie. Alors, ça doit s'étudier ensemble. Mais je vous dis, ça fait 40 ans, depuis la guerre mondiale, 45 ans, que je cherche des interlocuteurs. On n'arrive pas à les trouver.
Ah, mais il n'y en a peut-être pas de même niveau.
Pas de même niveau, c'est pas grave. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a ou des chrétiens qui pensent qu'il n'y a que le christianisme qui est vrai, ou des musulmans qui pensent qu'il n'y a que l'islam qui est vrai, ou des juifs qui pensent qu'il n'y a que le judaïsme qui est vrai. Mais nous sommes arrivés à un temps, il faut découvrir qu'il y a une seule providence. Et que s'il y a une seule providence, Dieu n'a pas pu faire que le christianisme n'a pas de sens, que l'islam n'a pas de sens, que le judaïsme n'a pas de sens. Vous comprenez ?
C'est ça.
Or, à ce niveau-là, les Occidentaux sont bouchés.
Oui, ils sont pris par,
par l'intellect.
L'intellect et oui. Puis les positions acquises, les traditions.
C'est cela. Alors, je vous donnerai tout à l'heure un exemple concernant le christianisme. Vous savez que pendant 2000 ans, les théologiens chrétiens disaient que les chrétiens devaient aider les juifs à lire la Bible. Connaissez ça.
C'est ça.
Et maintenant, ils découvrent que c'est l'inverse.
Les chrétiens ne connaissent pas la Bible. Voilà.
Et que non seulement ça, les juifs doivent les aider à lire le Nouveau Testament. Parce qu'il a été écrit par des juifs.
Le Nouveau Testament
était écrit par des juifs, tous les apôtres.
Mais c'est comme je le disais hier, Marie n'a pas été baptisée, c'est une juive, le salut d'Israël.
Absolument. Et alors, là, si vous avez encore un petit moment maintenant,
oui,
je vais
vous
faire lire un texte des évangiles pour vous montrer. Je vous demandais une minute, comme vous savez, depuis mon opération, je suis obligé d'aller aux toilettes.
Oui, j'ai
vous. Oui. Attendez, alors je ferme. C'était vrai. Le premier chapitre. Voilà. Alors, vous verrez, il y a trois paragraphes de 14 générations. Voilà. Alors, vous prenez d'abord le premier paragraphe. Il y a Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères. Ce qui est paradoxal, parce que l'expression chrétienne, ça devrait être Joseph et ses frères, et pas Judas et ses frères. Alors, je vais y revenir. Maintenant, vous prenez le troisième groupe, à la fin, le troisième groupe de génération. Deuxième, ça c'est le deuxième, alors prenez. Non, ça c'est le deuxième. Voilà, alors après ça commence le troisième groupe. Alors à la fin du troisième groupe, vous avez un Jacob qui engendre Joseph.
Jacob engendra Joseph, voilà. L'époux de Marie, c'est de laquelle naquit Jésus devant le Christ.
Voilà. Alors si on compare les deux époques, la première époque c'est le judaïsme, Judas et ses frères. Et là, à la fin, vous avez Jacob qui engendre Joseph, qui devient le père du Christ, le père terrestre. Ça veut dire que Matthieu montre très clairement qu'il y a une messianité selon Judas et une messianité selon Joseph. L'une est juive et l'autre chrétienne. Et alors, vous remarquez que par la suite, dans le récit des évangiles, celui qui s'oppose au fils de Joseph s'appelle Judas. C'est Judas Iscariote.
Voilà.
Alors, ça veut dire que les rédacteurs des évangiles nous ont laissé une clé pour la fin des temps. À la fin des temps, on reconnaîtra qu'il y aura une réconciliation entre Joseph et Judas. Ce qui est raconté dans la sortie d'Égypte, quand Judas et Joseph sont. Vous comprenez l'importance?
C'est ça.
Alors ça, ce sont les indications données par saint Paul dans l'Épître aux Romains, qu'à la fin des temps, il se révélera que les alliances appartenaient bien à Israël. Vous vous rappelez de ce texte dans les Romains?
Oui. Mais il est très profond.
Oui.
Mais oui. Je ne savais pas que dans le judaïsme, on lisait aussi et on étudiait l'Ancien Nouveau Testament.
Oui, les kabbalistes, bien sûr. Parce que nous devons nous préparer à expliquer aux chrétiens qu'est-ce que ça veut dire.
Mais parce que tout ça a été orienté unilatéralement.
Absolument. Et... C'est une indication que je voulais vous donner, que nous savons qu'à la fin des temps, il y a une réconciliation des trois branches. Après ces événements de la... Vous voyez, je vous parle comme un homme de foi, c'est extraordinaire, le privilège de notre temps de vivre temps de providence.
Mais c'est des temps difficiles pour les dirigeants, pour les gouvernants. Mais il faut payer, il faut une compensation. Nous sommes des privilégiés, comme vous dites, monsieur le professeur. Il faut bien mériter un peu ces privilèges par les souffrances. Donc nous vivons un temps de réconciliation.
Qui se prépare.
Qui se prépare.
Qui se prépare, se prépare. Encore une fois, je crois qu'il y a un privilège dans votre pays parce que vous avez des chrétiens et des musulmans qui ne sont pas comme les autres. Alors que là, ils peuvent commencer à se parler. Et avec comme traducteur un juif, alors ça pourra faire l'unité.
C'est ça. La seule inquiétude que j'ai, c'est l'emprise du Vatican sur les catholiques.
Il faut faire ça en privé.
Oui, on va faire ça en privé. On trouvera...
Voilà, je crois que ça vous permettra d'arriver à Jérusalem en disant « Voilà le cadeau que je vous apporte
». Mais quel est l'avenir de l'Afrique de toute façon, l'Afrique est partagée entre ses religions et ses grandes tendances.
Mais d'après nos traditions, ça se dirigera vers la chrétienté. Vous verrez que beaucoup de courants islamiques de l'Afrique rejoindront la chrétienté. Ça prendra du temps. Mais en tout cas, voilà, je ne voulais pas trop vous prendre de temps aujourd'hui. Mais vous allez me dire quand on pourra se revoir.
Mais demain, c'est le Shabbat pour vous. On se verra dimanche.
Dimanche, à quelle heure ça
Dimanche, vers 10h.
Très bien. Alors, entendu. Et puis on se verra aussi la nuit.
On se verra aussi la nuit, bien
sûr. Alors, dimanche à 10h, c'est très bien.
Je vais aller lire cette lettre-là. Oui. Je crois que c'est. Mais c'est une vision. Mais tout ça a été prévu.
Oui.
Mais on ne le savait pas.
C'était interdit de le dire, parce que tant qu'on ne vit pas les événements, ça risque l'affolement, ça risque d'affoler, selon le vertige. Mais nous connaissons les dates précises où les événements doivent s'arrêter. Et je vous montrerai mais il faut que vous appreniez l'hébreu.
Oui, justement, je souhaite apprendre l'hébreu.
Eh bien, je vais en parler en passant.
Parce que je m'aperçois que. D'abord, je connais des gens qui ont approfondi la Bible, mais ils la lisent en hébreu.
Oui.
Et puis, avec les études que nous faisons, il faut lire dans la langue.
Absolument.
Ça fera une...
Ça permet d'aller plus vite.
Oui, parce que les traductions ne sont jamais tout à fait...
Et puis, il manque l'intuition de que... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait penser dans la langue originale. Par exemple, la règle de grammaire que je vous ai donnée pour le passé le futur.
Oui, c'est impensable quand on ne connaît pas la langue.
C'est pourquoi d'ailleurs, les mentalités des civilisations qui n'ont pas cette règle ne peuvent pas admettre le repentir. Parce que pour admettre le repentir, il faut être capable de penser qu'on peut revenir dans le temps pour faire une restauration. Alors, le temps physique est irréversible, mais le temps moral n'est pas irréversible. Donc le repentir est possible.
Mais, monsieur le professeur, c'est à l'avenir, là c'est sur le plan religieux, mais l'avenir du monde, les rapports économiques, les rapports politiques qui sont très inégaux,
alors,
évidemment ça ne regarde pas la religion.
Si quand même, c'est relié au problème moral.
Ah bon.
C'est relié au problème moral, et tant dans l'islam que dans la chrétienté, mais de façon différente, on a distingué le problème religieux et le problème moral.
Les deux sont liés.
Oui. Or, les deux sont liés.
Et d'ailleurs, les lois civiles ne sont qu'un pâle reflet de la loi morale, décalogue.
Ce qu'indique le prophète, c'est que le temps de paix messianique dépend de la moralité. Et alors là, nous en parlerons aussi, c'est le problème qu'il y a une alliance avec Noir, l'alliance de moralité, et qui doit être l'alliance universelle. Alors c'est là qui garantit le temps de paix messianique et d'égalité des hommes. Mais ce temps vient après la réconciliation des grands courants de la religion d'Abraham. C'est ça le problème. Et là, nous sommes arrivés à ce stade-là.
Mais c'est un privilège extraordinaire.
Extraordinaire, absolument.
Et alors donc, il n'y a pas de risque de voir ce conflit évoluer en conflit international ou...
Il est déjà international,
mais mondial.
De jour en jour, on ne sait pas comment ça tourne. Ça va dépendre du mérite moral. Ça peut être un conflit atomique. Si l'Irak décide d'envoyer les gaz en Israël, la riposte risque d'être nucléaire. Espérons qu'on va l'échapper. Mais dans tous les cas, ce qui est clair, c'est que ça ne peut pas durer très longtemps.
Non, et puis les armes sont tellement... Et l'Irak, c'est un petit pays. 18 millions d'habitants, ils s'attaquent à des colosses.
Vous savez, la seule crainte que j'ai, c'est pas tellement l'Iran, mais que la Russie se mette de leur côté. Si la Russie ne se met pas de leur côté, c'est pas grave. Mais si elle se met de leur côté, c'est...
Est-ce qu'elle est en mesure de le faire?
Vous savez, il y a des folies partout. Bien, alors dans tous les cas, on a donc convenu dimanche 10h.
Et je vous souhaite une bonne, un bon Shabbat.
Je vais reprendre ça, ou bien je vous le laisse.
Non, je vous le donne. Je voulais seulement arrêter.